Vous êtes bien sûr la locale 97.3 à Saint-Girons dans La fille à la fenêtre, épisode 10. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, après avoir parlé longtemps du travail dans cette émission, une émission féministe sur la littérature écrite par des femmes, aujourd'hui on va parler de temps, on va un peu prendre le temps et on va se balader dans plusieurs livres où les héroïnes décident de chambouler un peu leur vie pour prendre le temps et écouter les mouches voler, ce genre de choses. On va commencer d'abord avec une héroïne qui a lutté pour s'installer dans le lieu qui lui permettra d'avoir enfin tout son temps. Il s'agit de Laura Willows. L'autrice, c'est Sylvia Thousand Warner. On est en Angleterre. C'est un livre écrit en 1927. Cela se passa au cours de l'hiver de 1921. La guerre, leurs noces d'argent, la première grossesse de Marion. Tout cela était déjà loin. Titus était en troisième année à Oxford. Les cheveux de Sibylle commençaient enfin à grisonner. Henri pouvait être nommé juge d'un jour à l'autre. Les cours des valeurs commerciales et de la bourse n'étaient pas au plus haut, et la grippe rôdait toujours. Henri n'avait cependant pas eu besoin de toucher à ses placements, et tante Lucilla avait miséricordieusement été libérée de ses maux, ce qui avait aussi libéré sa fortune. Caroline avait l'intention de faire rénover la maison au printemps. Elle voulait se débarrasser des tâches les plus simples avant d'entreprendre les grands travaux. C'est pourquoi Laura était sortie avant la fermeture des magasins pour montrer à M. Bunting une paire de lourds chandeliers et lui demander combien il prendrait pour les réargenter. L'estimation était très élevée, trop pour qu'elle pût prendre la responsabilité de faire faire le travail. Elle décida donc de reprendre les chandeliers et de consulter Caroline. Monsieur Bunting habitait Earl's Court Road, assez loin par conséquent pour un si proche ami de la famille. Comme elle avait tout son temps, elle décida pour changer de faire un détour et de passer devant les deux renards qui gardaient l'ancienne entrée de Holland Park, puis de suivre le sentier qui longeait la synagogue de Bayswater. C'est dans Moscow Road que la fantaisie s'empara d'elle. Toutefois, elle entra dans la petite boutique sans aucune idée extravagante en tête. Car le paquet de Caroline, suspendu à son bras, la rappelait à l'ordre, et la boutique elle-même, où l'on trouvait à la fois des fleurs et de l'épicerie, était d'apparence fort simple. Il y avait d'autres clients, et en attendant qu'on la servît, elle regarda autour d'elle. L'intérieur de cette boutique lui plaisait infiniment. Elle était petite et intime. Les fruits, les fleurs et les légumes s'entassaient dans un désordre campagnard. Sur l'étal, en pente dans la vitrine, au milieu des pommes, des poires à cuire à la peau rugueuse, des plateaux de noix, de châtaignes et de noisettes, se nichait un panier d'œufs lisses et bruns, qui avait l'air d'une espèce de noix particulièrement grosse. Tout un côté de la boutique était garni d'étagères en bois, chargées de pots de confiture faites à la maison et de fruits en bocaux. On aurait dit que les produits de l'été étaient venus chercher un abri. Par terre, gisait un tas de navets terreux. Laura regarda les fruits en conserve, les poires émincées au sirop, les prunes rouges et brillantes, les reines Claude. Elle pensa à la femme qui avait rempli ses pots et serré les couvercles. La mère de l'épicier vivait peut-être à la campagne. Une vieille femme seule, ramassant des fruits dans son verger à la tombée de la nuit, frottant la pointe de ses doigts rêches sur les prunes toutes lisses. Une vieille femme longue et sèche, debout, les bras levés au milieu de ses arbres fruitiers, comme si elle était elle-même un arbre, poussant dans l'herbe haute. les bras tendus comme des branches. Il faisait de plus en plus sombre. Elle continuait toutefois son travail, ployant méthodiquement, l'une après l'autre, les branches raides et frémissantes. Laura attendait toujours. Elle éprouvait une profonde nostalgie qui pesait sur elle comme le poids d'un fruit mûr sur la branche. Elle oublia la boutique, les autres clients, les chandeliers. Elle oublia l'air froid de l'hiver, les gens qui marchaient sur les trottoirs mouillés. Elle oublia qu'elle était à Londres, elle oublia toute sa vie à Londres. Elle avait l'impression de se trouver seule, dans un verger à la nuit tombante, les bras tendus vers le canevas de feuilles et de fruits, cherchant des doigts les courbes rebondies des fruits parmi les courbes sans relief des feuilles. L'air était froid et humide autour d'elle. Elle ne percevait pas un bruit. Les oiseaux s'étaient tus et les hiboux ne ululaient pas encore. Pas un son, si ce n'était, de temps à autre, le bruit sourd d'une prune mûre qui tombait dans l'herbe, ombre compacte parmi les ombres. La nuque lui faisait un peu mal à force de tenir les bras en l'air. Ses doigts fouillaient toujours les feuilles. Elle sursauta lorsque le vendeur lui demanda ce qu'elle désirait. Elle cligna des yeux et regarda avec surprise les gants qui couvraient ses mains. « Je voudrais l'un de ces grands chrysanthèmes, » répondit-elle en se tournant vers le vase brun dans la vitrine. Elle voyait les pommes et les poires, les œufs et les morceaux de noix débordant de leurs corbeilles. Elle voyait par terre les navets pleins de terre et à portée de main les confitures et les bocaux de fruits. Si elle se conduisait de manière ridicule, si elle avait l'air d'une femme que l'on arrache à un de ses rêves favoris, le réveil au milieu de ces choses n'était toutefois pas désagréable. L'homme qui tenait la boutique avait un visage bienveillant. Il portait un tablier de jardinier et ses mains étaient brunes et sèches comme s'il avait travaillé la terre. « Lequel voulez-vous, madame ? » demanda-t-il, en tournant le bouquet de chrysanthèmes pour qu'elle pût choisir. Elle regarda les grosses fleurs avec leurs têtes toutes frisées. Les pétales recourbés étaient d'un grenat profond au centre et d'un jaune fauve à l'extérieur. Là où la lumière tombait sur leur chair mince, le grenat brillait ardemment, alors que le jaune fauve pâlissait, comme s'il était légèrement coupé d'argent. Il lui tardait de pouvoir les caresser. « Je crois que je vais tous les prendre, » dit-elle. « Ils sont superbes, » répondit l'homme. Il était content. Il n'espérait plus une aussi bonne cliente à cette heure tardive. En lui rendant la monnaie sur son billet d'une livre et en lui tendant les chrysanthèmes enveloppés dans des feuilles de papier blanc fermées par des épingles, il lui donna aussi des branches de hêtre. Il précisa qu'elles étaient comprises dans le prix. Laura les prit dans ses bras. Les grands éventails aux nervures oranges lui paraissaient encore plus beaux que les chrysanthèmes, sans doute parce qu'on les lui avait donnés, parce que c'était une surprise. Elle les sentit. Les branches avaient l'odeur de la forêt, une odeur de forêt bruissante et obscure, comme celle à l'orée de laquelle elle se rendait si souvent à l'automne, dans ses rêves. Elle ne bougeait pas pour bien se pénétrer de ce qu'elle ressentait. Puis elle demanda. « D'où viennent-elles ? » « De la région de Chenise, madame, dans le Buckinghamshire. J'ai une sœur qui y habite. Tous les dimanches, je vais la voir et je rapporte une brassée de feuillage. » Plus besoin de demander qui faisait les confitures et serrait les couvercles, Laura savait tout ce qu'elle voulait savoir. Sa route était toute tracée. Tenant les branches de hêtre comme si elle se lançait à l'assaut du château de Macbeth, elle entra chez un libraire. Elle y acheta un petit guide des Chilterns et demanda une carte de la région. Elle expliqua qu'il lui fallait une carte très détaillée, indiquant le plus grand nombre de lieux et de sentiers possibles. Ses yeux brillaient avec un tel éclat et elle posait ses questions avec un tel sérieux que le libraire, bien qu'il ne possédât pas de carte de ce genre, se montra compréhensif et l'orienta vers un autre magasin où elle trouverait ce qu'elle désirait. Ce n'était pas très loin, mais les magasins allaient fermer. Elle prit donc un taxi. Après avoir acheté la carte, elle prit un autre taxi pour rentrer. En arrivant en haut d'Apsley Terrace, elle fut saisie d'un brusque désir de cachotterie et dit au chauffeur qu'elle terminerait à pied. Dans l'entrée, elle faillit se faire prendre. Le paquet de Caroline heurta le support du gong et elle entendit Henri remonter de la cave. Si elle avait fait retentir le gong, Henri aurait pressé le pas. Or, elle n'avait pas de temps à perdre avec Henri, car elle devait réfléchir à une foule de choses avant le dîner. Elle monta vite dans sa chambre, disposa les chrysanthèmes et les branches de hêtre dans un vase, et commença à lire le guide. C'était exactement ce qu'elle cherchait, un ouvrage simple et sans discours inutile. Il commençait dès les premières pages par la géologie, passait ensuite à la flore et à la faune, puis présentait les cours d'eau, les institutions ecclésiastiques et le gouvernement local. Venait ensuite une liste complète des villes et villages, brièvement décrits et classés par ordre alphabétique. Lamb's End comptait 300 habitants et possédait des fonds baptismaux remarquables. À Walpole's Saint-Denis se trouvait le manoir de la famille Bartlett, perché sur une colline, avec sa façade en stuc. L'hospice de Saint Paul, construit en 1703 par Bessia Hood, était orné d'une belle paire de grilles de fer forgé. Il faisait sombre, et elle pressait son nez contre les crosses et les rivets de la grille. Des chauves-souris tournaient dans la cour, et des ombres se mouvaient autour des stores jaunes. La vie aurait été bien plus simple si elle était née veuve et méritante. Elle ne s'appesantit pas sur ces considérations. Elle avait enfin résolu de se simplifier la vie. Elle déplia la carte. Les forêts étaient colorées en vert, les routes principales marquées en rouge. Il y avait beaucoup de vert. Elle regarda les branches de hêtre. Tandis qu'elle les regardait, une feuille se détacha et tomba lentement. Elle se souvint des écureuils. Un quart d'heure plus tard, Laura s'écria « Oh, un moulin à vent !» Elle reprit le guide et se replongea dans la lecture. Un tumulte inhabituel de voix familières dans l'entrée la fit revenir sur terre. Elle se rappela, sauta de son lit et s'habilla rapidement pour le dîner. Ils étaient tous là lorsqu'elle entra au salon. Sibyl et Titus, Fancy et son monsieur Wolf Saunders, Marion avec les dernières nouvelles de Spratt, qui, étant au Soudan, ne pouvait pas accompagner sa femme. Spratt avait eu un autre furoncle au cou, qui s'était heureusement résorbé, grâce aux médicaments. « Le pauvre garçon, » dit Henri, comme s'il pensait, « c'est le prix de l'Empire. » Au cours du dîner, Laura observa les membres de sa famille. Elle avait l'impression de se réveiller d'un sommeil long de 20 ans, toujours la même, pour se rendre compte qu'eux étaient devenus presque méconnaissables. Elle les examina l'un après l'autre. Henri et Caroline, qu'elle voyait pourtant tous les jours, étaient à moitié cachés par tout ce qu'ils avaient accumulé. La prospérité, l'autorité, l'expérience de la vie quotidienne. Ils étaient bardés d'expérience. Aucun événement impromptu ne pouvait les désarçonner. Ils sauraient toujours en absorber et en atténuer l'impact. Si la bouilloire explosait, si un policier grimpait par la fenêtre en brandissant une épée, Henri et Caroline sauraient maîtriser la situation, grâce à leur immense expérience, des bouilloires normales et des policiers normaux. Tous les sièges et les canapés étaient confortables. Le feu brûlait vivement dans la cheminée, les rideaux tombaient en plis solennels. Ils avaient un air presque aussi solennel que des tuyaux d'orgue. Laura était partie dans une de ses rêveries habituelles. C'était bien elle ne faisait jamais le moindre effort pour mettre un peu d'animation dans une soirée. Seule Sibyl s'agitait et jouait avec le talon de ses escarpins de satin. « Quelles jolies boucles, Sibyl ! Je ne les avais jamais vues !» Sibyl les avait achetées d'occasion pour presque rien. Elle venait d'Arles, et la vieille dame qui les lui avait vendues était un personnage. Sibyl rapporta les remarques pittoresques de la vieille dame avec un très bon accent français. Ses pieds étaient toujours aussi fins, et elle savait les présenter en les étendant avec grâce. Cela ne l'empêcha pas de penser à demander à Caroline où ils allaient pour les vacances de Pâques. « À Bliss, je pense, » répondit Caroline. « Nous y sommes déjà allés. Lorsque je me serai débarrassée des locataires et que j'aurai brassé un grand tonneau de bière familiale, je vous inviterai tous à Lady Place, » lança Titus. « Mais avant cela, » dit Laura d'un ton un peu précipité, « j'espère que vous viendrez tous me voir à Great Mop. » Ils se tournèrent tous vers elle, stupéfaits. « Bien sûr, ce ne sera pas aussi confortable que Lady Place, et je ne pense pas que j'aurai assez de place pour vous recevoir autrement que un par un. Mais je suis sûre que cela vous plaira. »« Je ne comprends pas, » dit Caroline. « Quel est cet endroit, Loli ?»« Great Mop. Ce n'est pas vraiment grand. C'est dans les Chilterns. »« Mais pourquoi irions-nous là-bas ?»« Pour me voir. Je vais m'y installer. »« Vous y installer ? Mais enfin, Loli, vous y installez, tante Loli ? C'est plus qu'inattendu. Est-ce qu'il y a vraiment un endroit qui s'appelle Loli, tu te moques de nous ? Ils parlaient tous en même temps. Mais Henri parlait plus fort, si bien que Laura lui répondit. « Non, Henri, je ne me moque pas de vous. Great Mop est un village des Chilterns. Je vais m'installer là-bas, et j'aurai peut-être un âne. Il faudra que vous veniez tous me voir. » « Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit, » déclara Henri d'un ton définitif. « Mais il te plaira. Hameau retiré au cœur des Chilterns, Great Mop est situé à 12 miles de Wickenden dans une région vallonnée couverte de forêts de hêtres. L'église paroissiale possède un admirable clocher normand et une lucarne. 227 habitants. Tout près, au sommet d'une colline, il y a un moulin à vent en ruine. La gare la plus proche est à 12 miles et il y a aussi une ferme qui s'appelle le Sceau de la Haie. » Henri estima qu'il était temps de l'interrompre. « Je suppose que tu ne t'imagines pas que nous allons croire à ces boniments. » « Je sais bien. Cela paraît presque trop beau pour être vrai. Mais ça existe. Je l'ai lu dans le guide et je l'ai vu sur la carte. » « Eh bien, tout ce que je peux te dire... Henri, Henri !» intervint Caroline en cherchant à le retenir. Henri se tut. Il jeta le coussin posé sur son siège, lança un regard furieux à Laura et détourna la tête. Laura décida d'attaquer Henri le lendemain matin. Elle l'observa pendant le petit déjeuner et constata avec la plus grande satisfaction qu'il était d'une humeur particulièrement bienveillante. Il avait bu 3 tasses de café, et lorsqu'un cornettiste ambulant se mit à jouer sur le trottoir d'en face, il s'exclama « Le pauvre homme !» Encouragée par ses heureux présages, Laura, une fois le petit déjeuner terminé, suivit son frère, qui s'était retiré dans son bureau avec le Times. « Henri, commença-t-elle, je suis venue te parler. » Henri leva les yeux. « Eh bien, je t'en prie, Loli, » répondit-il en souriant. « Un entretien d'affaires, » poursuivit-elle. Henri replia le Times et le posa à côté de lui. Il plia et posa, passez-moi l'expression, également son sourire. « Eh bien, Loli, de quoi s'agit-il ? » La voix était aimable, mais c'était la voix qu'il utilisait pour ses affaires. Laura respira profondément, tripota la bague de grenat à son petit doigt et commença. « Je viens de m'apercevoir, Henri, que j'ai 47 ans. » Elle s'arrêta. « Continue, » dit Henri. « Les deux filles sont mariées. Je ne veux pas dire que je viens à peine de m'en apercevoir, mais cela en fait partie aussi. Enfin, je ne suis plus très utile ici. »« Ma chère Loli, » protesta son frère, « tu es extrêmement utile. En outre, je n'ai jamais considéré nos rapports sous cet angle. » »« J'ai donc réfléchi et j'ai conclu que j'aimerais m'en aller. » Aller vivre à Great Mop, tu sais bien, l'endroit dont je parlais hier soir. Henri gardait le silence. Son visage était totalement inexpressif. Fallait-il lui remettre Great Mop en mémoire en lui répétant la description du guide ? Dans les Chilterns, murmura-t-elle. 227 habitants. Le silence de Henri la décontenançait. Je pense vraiment que c'est une bonne idée. J'aimerais vivre seule à la campagne, et je crois qu'au fond de moi-même, j'ai toujours eu l'intention de le faire un jour. Mais les jours se suivent et se ressemblent autant qu'il est presque impossible de les rattraper au vol. Si je ne pars pas bientôt, je ne le ferai jamais. Donc, si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais m'en aller le plus tôt possible. » Il y eut un autre long silence. Elle n'arrivait pas à comprendre Henri. Cela ne lui ressemblait pas de se taire lorsqu'il était contrarié. Elle s'était attendue à des coups de tonnerre, à des ruades furieuses, et elle aurait su y faire face. Mais ainsi contrainte à l'immobilité sous un ciel qui devenait menaçant, elle commençait à perdre la tête. Enfin, il parla. Je ne sais trop que dire. Je suis désolée si ce projet te contrarie, Henri. Je ne suis pas contrariée, je suis affligée. Affligée et étonnée. Tu vis sous mon toit depuis 20 ans. J'ai toujours cru, je me suis peut-être trompée, mais je l'ai toujours cru, que tu y étais heureuse. Très heureuse, répondit Laura. Caroline et moi, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que tu le sois. Les enfants, tous les enfants, te considèrent comme une seconde mère. Nous t'aimons tous beaucoup. Et voilà que, sans crier gare, tu parles de nous quitter et d'aller t'installer dans un endroit qui s'appelle Great Mop. Loli, je te demande instamment de chasser cette idée ridicule de ton esprit. Je n'aurais pas cru que cela te bouleverserait à ce point, Henri. J'aurais peut-être dû te le dire moins soudainement. Je ne voulais pas te faire de la peine. Tu m'as fait de la peine, je ne te le cache pas, reprit-il, s'empressant de profiter de son avantage. Mais passons, dis-moi que tu ne vas pas partir, Loli. Je suis désolée, c'est impossible. Mais Loli, ce que tu veux faire est absurde. C'est simplement ce que je souhaite, Henri. Si tu veux changer d'air, n'hésite surtout pas. Par une quinzaine de jours, par un mois. Fais un petit voyage à l'étranger si ça te tente, mais reviens chez nous. Non, Henri, je vous aime tous beaucoup, mais je sens que j'ai vécu assez longtemps ici. Mais pourquoi, pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Laura secoua la tête. Tu dois bien avoir une raison. Je t'ai donné mes raisons. Loli, je ne peux pas te laisser faire. Tu es ma sœur, je considère que tu es sous ma responsabilité. Je te demande une fois pour toutes de renoncer à cette idée. C'est insensé et déplacé. Je viens de te rappeler que j'ai 47 ans. Si je n'ai pas encore l'âge de savoir ce qui est censé et correct, je ne l'aurai jamais. C'est apparemment le cas. Cela correspondait davantage au caractère de Henri. Bien qu'il ait marqué un point sur sa sœur, cela ne semblait pas le stimuler autant que d'habitude. Il reprit en la suppliant presque. « Laisse-moi te guider, Loli. Prends au moins quelques jours pour y réfléchir. » « Non, Henri, je ne suis pas d'humeur à attendre. Je préfère franchir le pas tout de suite. En outre, si tu me désapprouves à ce point, plus tôt je ferai mes bagages, mieux ça vaudra. » « Tu es folle. Tu parles de faire tes bagages et de partir alors que tu ne connais même pas cet endroit. » « Je pensais y aller aujourd'hui pour prendre mes dispositions. » « Eh bien, tu n'en feras rien. Je regrette de paraître aussi dur, Loli, mais il faut que tu te sortes cette idée de l'esprit. Pourquoi ?»« Pourquoi ?»« C'est irréalisable. » Rien n'est irréalisable pour une femme célibataire de mon âge qui a ses propres revenus. Henri pâlit légèrement et ajouta. Tes revenus ne sont plus ce qu'ils étaient. Oh, les impôts, répliqua Loli avec mépris. Qu'importe. Même si c'est un peu moins, cela me suffira. Tu ne connais rien aux affaires. Loli, je ne vais pas entrer dans des explications compliquées. Je me contenterai de te dire que l'année dernière, tes revenus ont été pratiquement nuls. Pourtant, je peux toujours émettre des chèques. J'ai viré une certaine somme à ton crédit, à la banque. Laura avait également pâli. Ses yeux brillaient. Je suis désolée, mais il va tout de même me falloir me donner quelques explications, Henri. Il s'agit après tout de mes revenus, et je suis en droit de savoir ce qu'il en est advenu. Ton capital a toujours été entre mes mains, Loli, et je l'ai géré du mieux que j'ai pu. Continue, dit Laura. En 1920, j'en ai transféré la plus grande partie dans le fonds de développement de l'Éthiopie, un placement parfaitement sain, qui avec le temps rapportera autant qu'avant, sinon plus. Malheureusement, avec le gouvernement actuel et tous les discours socialistes, même les meilleurs placements ont été sérieusement touchés. Le fonds de développement de l'Éthiopie est du nombre. Continue, Henri. Jusqu'ici, je te suis parfaitement. Tu as placé tout mon argent dans quelque chose qui ne rapporte pas. Explique-moi maintenant ce qui t'a poussé à faire cette opération. Tout me portait à croire que je pourrais revendre presque immédiatement avec bénéfice. Dans le courant du mois de novembre, les actions étaient passées de 5¾ à 8,5. J'ai acheté en décembre à 8,5, elles sont montées à 8¾ et sont depuis lors en baisse constante. Elles sont également actuellement descendues à 4. Bien entendu, ma chère, tu n'as pas de souci à te faire. Elles remonteront dès l'instant où nous aurons un gouvernement conservateur. Et Dieu soit loué, cela ne saurait tarder. Mais tu vois bien que pour le moment, il est hors de question que tu envisages de nous quitter. Les Éthiopiens ne versent-ils pas de dividendes ? Ce genre d'action ne rapporte pas de dividendes, rétorqua Henri d'un air digne. C'est, ou plus exactement c'était, et cela redeviendra bien entendu, un investissement spéculatif sûr. Pour l'instant, cela ne te rapporte pas de dividendes dignes de ce nom. Allons, Loli, ne t'en fais pas, je t'assure que tout va parfaitement bien. Il te faut cependant renoncer à l'idée d'aller t'installer à la campagne. De toute façon, je suis certain que tu finirais par t'apercevoir que cela ne te convient pas. Tu as des rhumatismes. Laura essaya d'intervenir. Où tu en auras. Tous les Willows ont des rhumatismes. Le Buckinghamshire est une région humide, et ceci en raison de ses forêts de hêtres si poétiques. Vois-tu, les arbres attirent la pluie. C'est l'un des principes du reboisement. Les arbres, c'est-à-dire la pluie. Laura tapa du pied avec impatience. « Cesse de me raconter des histoires, ça ne prend pas » cria-t-elle. Elle n'était jamais sortie de ses gonds de la sorte jusqu'à ce jour. C'était une sensation énivrante. « Henri !» Elle sentait ses paroles crépiter aux oreilles de son frère. « Tu as acheté ces actions à 8 et quelques. Maintenant, elles sont à 4, donc si tu les revends aujourd'hui, tu en tireras un peu moins de la moitié du prix auquel tu les as payées. »« Oui, » dit Henri. Si Loli avait suffisamment l'esprit d'une femme d'affaires pour tenir ce raisonnement, elle finirait par entendre raison sur les autres points. « Très bien. Tu vas les revendre immédiatement. Loli. Et réinvestir l'argent dans un placement qui ne sera ni spéculatif ni sûr. Comme par exemple l'emprunt de guerre, mais qui rapporte des dividendes convenables. Il me restera assez pour vivre. Je ne serai pas aussi à l'aise que je croyais. Je ne pourrai pas m'offrir la petite maison que j'avais espérée, ni l'âne. Tant pis. Cela n'aura guère d'importance pour moi une fois que je serai là-bas. » Elle s'arrêta. Elle avait oublié Henri et les choses désagréables qu'elle comptait lui dire. Elle était arrivée à l'orée des bois, dont elle sentait le souffle frais sur le visage. Tant pis pour l'âne, la maison, et même le verger au crépuscule. Si elle ne pouvait pas cueillir les fruits de ses propres arbres, elle trouverait des herbes et des baies sauvages en quantité, partout où elle irait se promener. Lorsqu'on vieillit, il vaut mieux se défaire de toutes ses possessions, s'en dépouiller comme un arbre se dépouille de ses feuilles, et n'être presque plus que poussière avant de mourir. En quittant la pièce, elle se retourna et regarda Henri. Elle était dans un état d'esprit tel qu'elle aurait pu le bénir solennellement, comme avant d'éternels adieux. Mais il lui tournait le dos et ne se retourna pas. Lorsqu'elle fut partie, il sortit son mouchoir et s'essuya le front. 10 jours plus tard, Laura arriva à Great Mop. Après son entretien avec Henri, elle ne s'était plus heurtée à aucune opposition. Caroline savait que ce n'était pas la peine de s'acharner contre une obstination qui avait eu raison de son mari. Et passé l'effet de surprise, les autres membres de la famille étaient indifférents. Titus fut un peu déconcerté lorsqu'il s'aperçut que les projets romantiques de sa tante étaient sérieux. Lui, pour sa part, allait en Corse. « C'est un pays de montagne tout à fait banal par rapport au Buckinghamshire, » dit-il courtoisement. Le jour de l'arrivée de Laura, il pleuvait et le vent soufflait en rafales. Elle vint en voiture de Wickenden. La voiture tanguait et cahotait, et le vent rabattait la pluie contre les vitres. Laura avait du mal à discerner les vallonnements du paysage. Lorsque le véhicule s'arrêta, devant sa nouvelle demeure, elle contempla un moment l'unique rue du village, mais son examen fut interrompu par le parapluie de Madame Leek, qui s'empressa de la conduire jusqu'à la porte d'entrée. La pluie tombait et le vent soufflait pareillement le jour où elle était venue en reconnaissance et avait décidé de s'installer dans le cottage de Madame Leek. Henri, Caroline et leurs amis lui avaient affirmé qu'il en allait ainsi du début à la fin de l'hiver dans les Chilterns. Il ne trouvait pas de mots pour exprimer la tristesse et la désolation que l'on ressentait au milieu de ces collines exposées à toutes les intempéries. Assise au coin du feu dans son petit salon, Laura trouvait le bruit du vent et de la pluie agréable. « On n'admettrait jamais un temps pareil à Londres », se disait-elle. Les bourrasques sauvages qui heurtaient la maison et rabattaient la fumée dans la cheminée, de même que le gargouillement turbulent de l'eau dans les gouttières, étaient en accord avec son état d'âme. « Diable ! Quelle témérité !» hurlait le vent. « Alors, tu es venu nous rejoindre ?» Et pourtant, assise là toute seule, sans autre compagnie que celle de ses voix envoûtantes, elle était calme et heureuse. Après le thé, Laura fit l'inventaire de son nouveau domaine. Une grande table d'acajou avec 4 chaises et un canapé de crin, un fauteuil et un buffet assez quelconque par rapport aux autres meubles qui composaient le mobilier du salon. Au mur, peint en vert, était suspendue une gravure représentant l'impératrice Joséphine et 2 paysages classiques assez ternes avec des temples en ruines et des volcans. De chaque côté de la cheminée, il y avait des placards et le foyer lui-même était de ceux qu'on trouve dans les cottages, avec des plaques et un petit four sur le côté. Cette cheminée avait séduit Laura dès sa première visite. Elle s'était arrangée avec Madame Leek pour pouvoir y faire la cuisine lorsqu'elle en aurait envie. Certains mets, tels que les champignons ou le fromage fondu par exemple, ne peuvent être cuisinés de manière satisfaisante que par celui qui va les manger. Madame Lick n'avait fait aucune difficulté. C'était une dame d'un certain âge, avare de paroles et modérée dans ses exigences. Son mari travaillait à la scierie, il n'avait pas d'enfant. Elle n'avait jamais eu de locataire jusqu'alors. Toutefois, jusqu'à l'année précédente, une tante, indépendante financièrement, avait occupé le salon et la chambre où vivait désormais Laura. Laura ne mit pas longtemps à ranger ses affaires. Elle n'avait pas emporté grand-chose. Peu après le dîner, composé de lapins, de fromage, de pain et de bière ordinaire, elle monta se coucher. En marchant dans sa petite chambre à coucher froide, elle s'aperçut tout à coup que le vent s'était calmé et que la pluie avait cessé. Elle souleva un coin du store et ouvrit la fenêtre. L'air de la nuit était froid et parfumé et la pleine lune brillait très haut au-dessus d'elle. Le ciel était sans nuages, calme et beau. Quelques étoiles y scintillaient comme des gouttes sur le point de tomber. Elle découvrit pour la première fois l'enchevêtrement des collines arrondies et des vallées profondes qu'elle avait choisi de contempler tous les jours. Les forêts de hêtres s'étendaient sombres et denses sur les hauteurs. Aussi silencieux qu'une chouette, un chat blanc sauta sur la clôture du jardin. Il jeta un regard d'un côté et de l'autre, courut un mètre ou deux, et sauta à terre pour poursuivre en secret son chemin. Laura soupira de bonheur. Elle ne pensait à rien. Son esprit était aussi vide et net que le ciel balayé par le vent. Longtemps, elle resta à sa fenêtre, oubliant dans son contentement le lieu où elle se trouvait et comment elle y était parvenue, tant elle se sentait détachée du monde.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love are what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love are what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Na 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 has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love are what he's looking. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love are what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Thank you.
On va maintenant parler de la jubilation après qu'on ait trouvé le lieu à soi et le temps à soi. On va en parler avec Elisabeth von Arnim, l'autrice d'un livre qui s'appelle Avril enchanté, paru en 1922. Quand Madame Wilkins se réveilla le lendemain matin, elle paraissa au lit quelques minutes avant d'ouvrir les volets. Que verrait-elle de sa fenêtre ? La pluie ? Le soleil ? Qu'importe. À travers cette fenêtre, le monde serait beau, forcément beau. Elle se trouvait dans une petite chambre aux murs blanchis à la chaux, au sol dallé, que ne suffisait pas à remplir quelques vieux meubles dépareillés. Les deux lits de fonte émaillés étaient égayés par un décor de fleurettes. Elle restait couchée, retardant le moment d'ouvrir la fenêtre comme on retarde celui d'ouvrir une lettre trop longtemps attendue. Elle n'avait aucune idée de l'heure car elle n'avait plus remonté sa montre depuis la dernière fois qu'elle s'était couchée à Hampstead. Il y avait des lustres de cela. N'entendant aucun bruit dans la maison, elle pensa qu'il était encore très tôt et pourtant elle se sentait parfaitement reposée, apaisée. La tête dans les mains, elle songea qu'elle était bien heureuse et ses lèvres se retroussaient en un sourire de satisfaction. Être au lit et seule, la délicieuse situation. Depuis 5 longues années, elle n'avait pas plus dormi sans Mellersch. Quel plaisir tout neuf simplement de sentir la fraîcheur des draps, de s'y étirer tout à son aise, de tirer sans crainte les couvertures ou d'arranger les oreillers à son idée. Madame Wilkins était partagée entre le désir d'ouvrir les volets et celui de continuer à paresser. Elle poussa un soupir de contentement et de nouveau parcourut la chambre des yeux, sa chambre à elle, que pendant ce mois béni, elle serait libre d'arranger à sa guise une chambre qu'elle avait payée de ses propres deniers au prix de 1000 sacrifices et dont elle pourrait tirer le verrou sans que personne n'eût rien à y redire. C'était une petite chambre bizarre, très différente de celle qu'elle avait connue jusqu'à présent. Elle avait quelque chose de monacal. Tout en elle, excepté les deux lits, évoquait une sorte d'austérité heureuse. Mais s'il était délicieux de rester au lit à se répéter qu'elle était très heureuse, ce qui l'attendait au-delà des volets devait receler 1000 sources nouvelles d'enchantement. Elle se leva d'un bond, chaussa ses pantoufles, car le carrelage n'était recouvert que d'un mince tapis, et s'en alla ouvrir les volets. « Oh !» s'écria Madame Wilkins. Toute la splendeur d'un avril italien semblait rassemblée à ses pieds. La mer bougeait à peine sous le soleil éclatant. De l'autre côté de la baie, de charmantes montagnes aux couleurs délicates paraissaient somnoler elles aussi dans l'éblouissante lumière. Sous la fenêtre, au pied de la pente herbue, fleurie, d'où s'élevait la muraille du château, on voyait un grand cyprès qui tranchait parmi le bleu, le violet et le rose tendre des montagnes et de la mer comme une immense épée noire. Elle n'en croyait pas ses yeux. Tant de beauté pour elle seule! Le visage baigné de lumière, elle sentait 1000 parfums monter vers elle, tandis qu'une légère brise lui ébouriffait les cheveux. Plus loin, dans la baie, un petit groupe de bateaux de pêche voletait, comme une troupe d'oiseaux blancs sur la paisible mer. Que de beauté, que de beauté! Quel bonheur d'avoir assez vécu pour voir, sentir, respirer ce paysage de songe! Elle écarquillait les yeux, entr'ouvrait ses lèvres. Heureuse! Oui, elle était heureuse, mais que ce mot paraissait soudain pauvre, ordinaire, insuffisant. Comment décrire la salve de sensations qui l'envahissait? Il lui semblait être devenue trop petite pour contenir une pareille joie. Quelle surprise de se trouver plongée en pleine béatitude, alors qu'elle ne faisait rien que de parfaitement égoïste. Les remords auraient dû la tenailler, or elle n'en ressentait pas le moindre. Comment cela était-il possible? Elle qui était toujours si vertueuse en Angleterre, et ne cessait de se torturer. Depuis toujours les remords, les chagrins, les découragements l'avaient accablée, elle qui ne vivait que pour autrui. Et voilà qu'elle avait abandonné sa vertu, comme on se débarrasse d'un vêtement mouillé, et n'en éprouvait que de la joie. Elle était nue, heureuse de l'être, jubilante, alors que pendant ce temps, dans leur homestead si terne et renfermée, Mellersch ne savait qu'exhaler sa mauvaise humeur. Madame Wilkins essaya de se représenter Mellersch, de l'imaginer qui prenait son petit déjeuner et remâchait sa rancœur. Mais l'image de Mellersch se brouillait, prenait d'inattendus tons de rose, de violet, de bleu, perdait ses contours, devenait iridescence, sente. Au bout du compte, Mellersch finit par disparaître tout à fait. « Eh bien, » songea Madame Wilkins, tentant vainement de rappeler son image. Comment elle, qui connaissait si bien chacun de ses traits, chacune de ses expressions, était-elle soudain incapable de le voir autrement que baigné de lumière, comme se confondant avec le monde harmonieux qui l'entourait ? Des paroles d'action de grâce lui vinrent tout naturellement à l'esprit, et elle se mit à louer le Seigneur pour l'avoir créée, protégée et couverte de bienfaits, mais surtout elle loua son infinie bonté, à haute voix, tant l'émotion l'avait gagnée. Pendant ce temps, Mellersch tirait rageusement sur ses bottines avant d'aller affronter les rues trempées par la pluie battante, et il était loin de penser du bien de son épouse. Madame Wilkins entreprit de s'habiller, choisissant des vêtements blancs immaculés pour honorer ce beau jour d'été. Tout en défaisant ses malles, elle se laissait aller au plaisir d'arranger à sa guise l'adorable petite chambre qui lui était échue. Elle virevoltait à travers la pièce à petits pas décidés, et sa silhouette élancée semblait se redresser peu à peu, tandis que son petit visage, d'ordinaire contracté et comme fripé par la crainte de mal faire, se détendait à vue d'œil. Rien n'existait plus de ce qu'elle pouvait avoir fait avant ce matin, de ce qui l'avait soucié, tracassé. Comme le souvenir de Mellersch, chacun de ses soucis paraissait se dissoudre dans un excès de couleur et de lumière.
There was a time when you could snap your fingers and I'd come a running to you. But try it now, come on, try it now, and you're gonna find when you do. Was a time when I would smile and take the pain, when you would tear my dreams apart or break my heart in two. Try it now, come on, try it now, and you're gonna find that when you do, that times have changed. Just don't love you anymore. Somebody new I met made me forget the memories we knew. That broken heart I got from you. Try it now, 'cause you know that times have changed.
Toujours sur la locale, 97.3 à Saint-Giron, dans La fille à la fenêtre. Maintenant, on va partir aux États-Unis, en 1986, avec Shu Hubel, qui a écrit « Une année à la campagne, vivre les questions ». Parce que après s'être installé et après avoir jubilé, on peut maintenant profiter du fruit de notre travail. Le mur sud de mon chalet est occupé par trois grandes baies qui vont du sol au plafond. J'aime être assise au creux du fauteuil en cuir marron, dans le crépuscule des soirées d'hiver, à regarder les oiseaux voleter autour de la mangeoire installée en travers des fenêtres. Celles-ci m'ont été offertes par mon mari avant qu'il ne parte pour la dernière fois. Il lui était déjà arrivé de venir et de repartir, et nous ne savions pas très bien si celle-ci serait la dernière, bien que je m'en sois doutée. Je vis ici, dans les monts Ozark, au sud du Missouri, depuis 12 ans maintenant. Et la plupart du temps, j'ai vécu seule. J'ai appris à diriger une affaire que nous avions montée ensemble, une entreprise d'apiculture et de production de miel, occupation hasardeuse et marginale, qui ne me libère jamais vraiment des soucis financiers, mais me permet de vivre dans ces collines que j'aime. Ma parcelle des Ozarks est insolite et spectaculaire. Ma ferme est située à 80 mètres au-dessus d'une rivière rapide et bouillonnante au nord et d'un petit ruisseau au sud, dont le cours est coupé de cascades. Rivière et ruisseau se rejoignent à l'est, et je vis donc sur une péninsule de terre. Les 20 hectares du fond sont couverts de bois taillé, et c'est là que je me fournis en bois de chauffage. L'été dernier, alors que je coupais du bois, j'ai découvert un magnifique noyer noir, de grande taille et bien droit, sans branches adjacentes pour diminuer sa valeur de bois d'œuvre. Je ne songe pas à le vendre, malgré le bon prix que je pourrais tirer d'un noyer aussi parfait, mais j'ai abattu quelques arbres à proximité pour lui donner de l'espace. Le nom botanique du noyer noir est Iuglans nigra, l'arbre de Dieu au gland noir. Nom approprié à un arbre d'une telle dignité, et je voulais qu'il ait de la place. Pendant ces 12 années, j'ai appris qu'un arbre a besoin d'espace pour pousser, que les coyotes chantent près du ruisseau en janvier, que je peux enfoncer un clou dans du chêne seulement quand le bois est vert, que les abeilles en savent plus long que moi sur la fabrication du miel, que l'amour peut devenir souffrance et qu'il y a davantage de questions que de réponses. J'ai fait la connaissance de Paul, le jeune garçon qui devait devenir mon mari, alors qu'il avait 16 ans et que j'en avais 15. Nous nous sommes mariés quelques années plus tard, et cet accord légal que l'on appelle le mariage a fonctionné assez bien, tant que nous sommes restés des enfants et que nous avons eu un enfant. Mais nous avons grandi, le fils est parti à l'école et le mariage a cessé de structurer nos vies comme par le passé. Cet homme est cependant resté le compagnon de mon existence durant toutes ces années. Il n'y en eut pas d'autre. Aussi, lorsque l'accord légal prit fin, j'ai passé une période difficile à trier les vestiges affectifs d'une étroite association qui s'était prolongée 30 ans et dont la structure avait été brisée. J'ai passé par tous les stades habituels. Je ne pouvais ni manger ni dormir. Je tenais à mes amis des propos enflammés. Je me suis plongée à corps perdu dans une liaison destructrice avec un homme affligé de plus de problèmes encore que moi, mais disponible. J'ai pris une série de décisions stupides concernant mon affaire d'apiculture et, de façon générale, j'ai gâché ma vie pendant plusieurs années d'affilée. Et pendant très très longtemps, mon esprit a cessé de fonctionner. Je ne comprenais pas les nouvelles que j'entendais à la radio. Mon attention vagabondait dès que j'essayais de lire autre chose que des balivernes. Ma pensée tournait en rond, inlassablement, douloureusement. Je ne pouvais ni me concentrer ni réfléchir, avec un semblant de logique. J'avais toujours eu plaisir à me servir de mon esprit, et il me manquait de façon extravagante. Pendant 3 ans, j'ai ainsi déraillé. Je rêvais de structures, de charpentes, de schémas, de systèmes, de classifications et d'ordre. Je découvris une classification imaginée par Georges-Louis Borges, affirmant « Une certaine encyclopédie chinoise divise ainsi les animaux. A. Appartenant à l'empereur. B. Embaumé. C. Apprivoisé. D. Cochon de lait. E. Sirène. F. Fabuleux. G. Chien perdu. H. Inclus dans la présente classification. I. Frénétique. J. Innombrable. K. Dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau. L. Etc. M. Venant casser le pot à eau. N. De très loin, ceci ressemble à des mouches. » Cette liste nous fit rire, quelques amis et moi, et nous décidâmes que notre réaction en disait plus long sur nous et notre mode de pensée européen, occidental, qu'elle n'en dit sur une conception du monde prétendument orientale. Nous pensions avoir une idée plus juste de la façon dont le monde naturel devait être classifié et que Borges bouscula cette conception nous amusait. Que je puisse rire, moi aussi, me fit comprendre que j'avais dû conserver un certain sens de cet ordre, malgré le désordre qui semblait régner dans mon esprit. Mon père était botaniste. Lorsque j'étais enfant, il me réservait ses samedis après-midi, et nous en passions de nombreux à marcher dans les bois et sur des sentiers rocailleux. Il me désignait les plantes que nous trouvions par leur double nom latin et m'expliquait comment elles poussaient. Ces noms étaient trop compliqués pour moi, mais je comprenais cependant qu'ils évoquaient les relations des plantes entre elles, et je trouvais ces dénominations raffinées et captivantes, même à l'âge de 6 ans. Après avoir lu la liste de Borges, je me tournais donc vers Linné. Quelles que soient ses erreurs d'ordre scientifique, il nous a donné un merveilleux outil pour réfléchir à la diversité du monde. Le premier mot dans son système de double nom latin nous donne le genre, groupant des plantes variées possédant un point commun. Le deuxième mot désigne l'espèce. Plantes suffisamment similaires pour se croiser régulièrement et donner une descendance semblable à elle-même. C'est un système qui permet de comprendre, de montrer comment les diverses parties du monde forment un tout. Je ne sais pas le latin, mais lorsque je me lançais dans la botanique et appris à appeler les plantes autour de moi dans ma colline par leur nom latin, la clarté du système compensa mon ignorance. Comelina virginicana, la comeline commune, est une plante élancée portant des fleurs bleues aux sépales inégaux, dont 2 sont pulpeux et arrondis, le 3e à peine visible. Après l'avoir identifiée comme étant cette comelina en particulier, nommée d'après un spécimen trouvé en Virginie, je lus dans l'un de mes manuels, écrit avant qu'il ne fût jugé nécessaire d'être ennuyeux pour être pris au sérieux. Le charmant Linné, qui avait un goût prononcé pour la plaisanterie, avoue lui-même avoir donné aux comelines le nom des 3 frères Comelin, botanistes hollandais, parce que 2 d'entre eux, évoqués par les brillants pétales bleus de la fleur, publièrent leurs œuvres. Le 3e, manquant d'ambition et de persévérance, se révéla médiocre, tout comme le 3e pétale, blanchâtre et insignifiant. Dans la partie boisée de mon domaine pousse un arbre aux feuilles ovales et brillantes qui vire au rouge éclatant au début de l'automne, parfois même à la fin de l'été. Il donne en juin de petites grappes de fleurs blanches qu'affectionnent les abeilles, et plus tard des baies violettes dont se nourrissent les oiseaux bleus et les rouges-gorges. Il fait partie de la famille des Toupelos, et les gens de cette région l'appellent Black Gum ou Sour Gum. Lorsque j'étais enfant au Michigan, je le connaissais sous le nom de Pepperidge. Son nom botanique est Nissa sylvatica. Nissa désigne tous les Toupelos et vient des Niséides, les nymphes grecques du mont Nysa qui veillaient sur Dionysos enfant. Sylvatica signifie de la forêt. Nissa sylvatica, un nom sauvage, indompté. Les arbres, qui sont souvent creux lorsqu'ils sont vieux, servaient de ruches aux premiers colons américains, qui en coupaient des tronçons, les munissaient d'un couvercle et déposaient dedans les essaims qu'ils trouvaient. Encore aujourd'hui, certains appellent encore les ruches des gums, utilisant ainsi à leur insu le nom régional de l'arbre. Les troncs creux servaient également à fabriquer des tuyaux qui amenaient l'eau salée aux salines de Syracuse à l'époque coloniale. Les extrémités des tuyaux en bois pouvaient être raccordées sans que l'on utilisât de joints métalliques, qui auraient rouillé. Cela me donne ample sujet à réflexion lorsque je tombe sur un Nissa sylvatica dans les bois. Au cours de cette période difficile, j'herborisais avec une sorte de frénésie. Tous les jours, j'apprenais le nom latin de nouvelles plantes. J'errais dans les bois durant cet hiver-là, n'étant guère bonne à autre chose, et j'examinais les écorces des arbres dénués de feuilles. Quand les fleurs sauvages commencèrent à s'épanouir au printemps, j'emportais mes guides avec moi et remplis un épais carnet de notes à mesure que j'identifiais les plantes, leur habitat, leurs coutumes et les dates de leur épanouissement. Je devais tout écrire, car mon cerveau, inhabitué à l'exercice, avait atteint un stade de saturation. Par un après-midi de printemps, je remontais mon allée après être allé chercher le courrier. J'avais 2 nouvelles fleurs ravissantes dont je voulais chercher les noms une fois rentré au chalet. Les oiseaux chanteurs étaient en pleine migration et je les avais observés à la jumelle. J'en avais remarqué un que je n'avais encore jamais vu. Le soleil filtrait à travers les jeunes feuilles et les fleurs des merisiers tardifs. Prunus serotina. Prunus pour prune, serotina qui fleurit tardivement. Sur lesquels s'activaient mes abeilles. Ces merisiers embaumaient. Baigné d'un rayon de soleil, je m'attardais à les contempler. Le monde semblait avoir poursuivi paisiblement sa course, sans même que je m'en aperçoive. Envahi d'un sentiment de gratitude, je découvris qu'une partie de moi-même, disparue je ne sais où pour se laisser consumer par son chagrin, et sa douleur était revenue. J'étais remise sur rail. Une fois d'aplomb, je m'attaquais à toutes les tâches que l'on entreprend lorsqu'on revient de voyage. Je rangeais le bureau et répondis aux messages que d'autres avaient laissés. J'avais été longtemps absente, et il y avait donc toute une pile à liquider avant de pouvoir me mettre à construire l'après-midi de ma vie, à élaborer un ordre d'une autre espèce. Une structure permettant à une femme de 50 ans de vivre sa vie seule, en paix avec elle-même et avec le monde environnant. C'est la fin de cette émission. On a lu dans l'ordre Laura Willows de Sylvia Thousand Warner, paru en 1927, traduit de l'anglais par Florence Lévy. Puis Avril enchanté d'Elisabeth von Arnim, paru en 1922 et traduit de l'anglais par François Dupuis-Grenet des Roussilles. Puis on a lu Une année à la campagne de Sue Hubble, paru en 1986 et traduit de l'anglais par Janine Hérisson. Et on a écouté Before Departure de P.G. Harvey, on a écouté Freed from Desire, version acoustique par Gala, Times Have Changed par Irma Thomas, et on va finir par l'habituelle chanson d'Anne Sylvestre. Et je vous souhaite un très bel été, et j'espère que vous allez avoir du temps pour faire des choses, ou surtout pour ne rien faire. Et je vous dis au mois de septembre. C'était La Fille à la Fenêtre sur la Locale, 97.3 à Saint-Girons.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce, Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien, Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en est aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment enfonce, Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment, loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas, la maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elle ne ferait plus rien. toutes les clémences comme en enfance. Elle serait bien, toutes les clémences prendraient.